Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, Pierre-Paul Delvaux. Je suis de nouveau à Maritsou avec le père José Willibald Michaud pour continuer notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 21. Dans l'émission précédente, le père José nous a dit à quel point cet ajout était important et cet ajout était probablement écrit pour nous dans la ligne de la question indéracinable de Thomas. Alors ce chapitre 21, en plusieurs parties, et il y a un ton différent, il y a quelque chose de très poétique, et puis il y a à la fin de ce chapitre, l'amour redonné, le pardon qui est donné à Pierre, et puis la mission, et puis l'invitation à le suivre. Nous allons, dans cette émission, aborder la première partie de ce chapitre, dite une sorte de pêche miraculeuse. Alors, ce qui est intéressant avant la lecture, c'est qu'il y a ce contraste entre la nuit et puis le matin. Et puis, il y a cette voix qui dit, cette certitude, c'est le Seigneur. Et puis, tous les apôtres, là, tous les disciples, savaient bien qui il était. Or, cette vieille question qui traverse l'Évangile,
sans oser lui demander.
Et puis finalement, à la fin de cette scène, Jésus prend le pain et le leur donne. Voilà, je vous mets en projet pour la lecture que je vais faire, chapitre 21, versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin. Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Hé, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, lui répondirent-ils. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre saignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait déposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu ?» Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors, Jésus vient. Il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Voilà, Père José, une scène toute bruissante de symboles, toute bruissante de poésie, peut-on dire.
Bien sûr. Et nous sommes dans la mer. Ce qui me frappe dans ce récit, c'est le passage de la première phrase il ne savait pas que c'était le Seigneur. Et puis, à la fin, personne n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Je trouve le passage d'une phrase à l'autre est étonnant. À quel moment ? Si au moment de la parole, jetez le filet à droite et vous trouverez, mais de quel savoir s'agit-il ? Est-ce la foi ou une nouvelle évidence ? Ça nous interpelle, ça.
Vous avez parlé, quand on a commenté le chapitre 15, 16, 17, de la promesse d'une nouvelle présence. Est-ce que nous ne sommes pas sur le chemin de la Pentecôte, finalement, avec cette espèce d'intuition ? C'est la surabondance, et puis la parole de Jean, c'est le Seigneur. Et c'est une parole qui est en quelque sorte chuchotée, mais fulgurante.
Oui, oui bien sûr. Dans ce dernier chapitre, nous avons l'évocation de la découverte de cette nouvelle présence. Thomas, les disciples, et puis maintenant Simon-Pierre. Quelle nouvelle présence qui fait qu'on ne peut pas saisir sa présence et pourtant elle nous envahit. Il y a quelque chose, pas de contradictoire, mais de paradoxal, dans cette présence insaisissable. Et je trouve que ça nous interpelle, ça.
Je pense à tous les commentaires que vous avez faits à propos, justement, de cette tentation de saisir. Si, finalement, ici, cette présence ne peut pas être saisie, il y a une sorte d'accomplissement. En quelque sorte, on est en train d'accomplir cette nouvelle présence, peut-être que ce que Marc appelle le royaume, n'est-ce pas cela ? Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir.
Il y a un avènement. Oui, ça je le crois. C'est le sens de la Pentecôte, évidemment. La nouvelle présence est accomplie à la Pentecôte. Pas dans l'évidence, mais dans l'événement qui bouleverse.
Alors, il y a aussi de très belles images, Père José. Il y a le pain, il y a le poisson, et puis il y a le feu. Et ce repas qui est là, esquissé, et Jésus qui prend et puis qui donne. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là, qui est très fort.
Mais ce qui est caractéristique dans ces derniers épisodes d'après la résurrection, c'est que cela se passe presque toujours dans le cadre d'un repas, donc d'un partage. L'expérience du partage est fondamentale pour les premiers chrétiens, et pour nous aussi. C'est dans le partage que peut-être nous trouvons ou nous retrouvons la nouvelle présence.
Il y a aussi une caractéristique, Père José, c'est cette espèce de tendresse. Et puis, cette abondance, parce qu'il y a un détail tout de même, 153 gros poissons. Est-ce que cela a une signification ou bien c'est simplement une sorte de surabondance ?
Je crois que pour l'époque, selon les scientifiques de l'époque, 153 poissons représentent toutes les espèces de la vie animale dans la mer. Et donc, il y a l'idée de plénitude, de totalité et de plénitude.
Et alors, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux. C'est que Jésus demande d'apporter du poisson. Or, il est indiqué dans le texte que sur le feu, il y avait du pain et il y avait déjà du poisson.
Tout à fait. Ça m'a frappé aussi. Jésus nous précède dans le partage. À la fois, il nous y invite, il nous demande d'y participer, mais il nous a précédés.
Et puis, c'est tout simple, venez déjeuner, et il y a le partage. Il prend le pain et le leur donne. Tout ça est eucharistique, finalement.
Bien sûr, l'eucharistie est profilée ici. La nouvelle présence et l'eucharistie sont évidemment liés. Et pour nous aussi, la nouvelle présence dans la foi et l'Eucharistie dans l'engagement du partage.
Père José, nous allons faire une petite pause musicale avec une pièce pour basson et orchestre de Jean Français. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de Saint Jean. Nous en sommes au chapitre 21, chapitre qui est un ajout, comme vous le savez. Nous avons commenté la pêche exceptionnelle avec les 153 gros poissons et le repas qui a suivi. Scène toute baignée de poésie et de tendresse. Et puis, souvenez-vous, les disciples savaient tous que c'était lui, que c'était le Seigneur, mais nul n'osait le lui demander. Dans la deuxième partie de ce chapitre, on va dénouer littéralement quelque chose qui est très douloureux. C'est ce repas qui va permettre, la deuxième partie, c'est l'amour redonné. Je vais lire à partir du verset 15. Il y a « Pierre, m'aimes-tu ?» C'est une scène bien connue. Et puis, chaque fois, Jésus envoie en mission.
Oui.
Et puis après, à la fin du chapitre, ce n'est pas « va », c'est « suis-moi ». Je pense qu'il y aura, matière à commenter. Okay. Et puis, à la toute fin du chapitre, Pierre le suit et puis se retourne. Je crois qu'avec ça, nous avons quelques points de repère pour profiter de cette lecture et puis nous commenterons verset par verset. À partir du verset 15 au chapitre 21. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus dit alors, « Paix mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers sa poitrine et qui lui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand il le vit, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » C'est à partir de cette parole qu'on a répété parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En réalité, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, Père José, il semble bien que dans le texte grec, le verbe « aimer » se décline, non pas comme il se fait ici en français dans les traductions.
Non, alors, là, il y a un manque dans la traduction. Il y a une différence profonde entre les deux mots qui vont signifier l'amour. Et Jésus lui-même va changer de verbe. Donc, d'abord, il y a ce triple questionnement. Est-il cruel ? Certains le disent. Je ne crois pas qu'il soit cruel. Il me semble qu'il y a chez Jésus le souci de déraciner jusqu'au fond ce qui peut rester comme remords dans le cœur de Pierre. Et Pierre ne le réalise qu'à la troisième question. Mais dans la première question, Jésus emploie le verbe agapao, donc qui est le verbe général pour signifier aimer. Mais Pierre, lui, répond avec un autre verbe, philéo, qui est chérir dans la tendresse. Pierre insiste sur ce mot au point que Jésus l'adopte. Donc Jésus l'interroge d'abord avec le verbe agapao, puis comme Pierre répond par philéo, Jésus, à la troisième fois, lui dit « Mais crois-tu vraiment que tu m'aimes tendrement, que tu me chéris ?» Et alors, il y a cette merveilleuse réponse de Pierre « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime tendrement, et moi je traduirais « Tu sais si je t'aime, c'est toi qui sais, moi je ne le sais plus. »
Encore une fois, nous avons une scène où il y a une transformation du discours de Jésus, en tout cas. Il y a ce verbe qui finalement contamine le discours de Jésus. Et c'est finalement Jésus qui adopte ce mot que Pierre lui offre.
Mais parce que la question de Jésus était « Pierre, Simon, fils de Jona, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et ça, on ne reprend pas ça. Et Simon répond, « Mais Seigneur, tu sais que je t'aime tendrement. » Il remplace le « plus que ceci » par le « tendrement ». Je trouve ça intéressant. Et pourtant, On se fonde sur ce texte pour affirmer la primauté de Pierre. C'est pas la primauté, je dirais, c'est la profondeur.
Mais justement, il s'y prend à trois fois et Jésus veut véritablement déraciner quelque chose qui a été profondément abîmé, qui a été profondément blessé, je pense.
Le cœur de Pierre est blessé. Et dans ce dialogue, il y a la restauration du cœur de Pierre. Pierre est confirmé dans le fait qu'il pourra à nouveau aimer. Aimer jusqu'à donner la paix aux autres.
Au fond, on se rend compte que certaines choses peuvent être brisées, peuvent être sectionnées, peuvent être coupées, et ici on renoue en profondeur. Il y a quelque chose qui, en quelque sorte, contredit tout ce que nous pouvons détruire.
Tout à fait. Et le pardon est plus puissant que le don. Pouvoir donner jusqu'au bout, jusqu'à effacer la contradiction du don, c'est ça le miracle de l'amour.
Pardon, c'est véritablement une traversée, Père José?
C'est un don confirmé dans sa racine.
Mais au fond, ne fallait-il pas que Jésus passe par mort et résurrection pour pouvoir donner, renouer cet amour?
Jésus donne le témoignage du pardon au moment de sa mort, quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ici, dans ce dialogue avec Pierre, Jésus pardonne et guérit tout en éclairant peut-être Pierre sur la profondeur de ce qui s'est passé.
Voilà, c'est donc finalement quelque chose de très profond, une restauration profonde. Je vous propose d'en rester là pour cette émission, Père José. Nous avons encore à parler de tout le reste, c'est-à-dire de la mission que Jésus confie à Pierre, et puis de ce fameux « suis-moi », et puis de cette comparaison avec le fait qu'il s'est retourné sur le destin de Jean. Nous en resterons là pour aujourd'hui, Père José. Voilà, chers auditeurs, je vous laisse avec un des extraits du concerto pour basson et orchestre de Jean Français.
Thank you.